Il est 8h.
Le mec commence à devenir fou. Il triple les tarifs et il fait venir 6 personnes dans une salle, 15 dans une autre. Mais là, il y a vraiment problème de mise en danger de la vie d'autrui.
À quoi ressemblaient vraiment les dîners festifs organisés malgré le couvre-feu? Le témoignage exclusif d'un photographe qui a assisté aux premières soirées et toujours à Paris, le récit de cette messe de Pâques où prêtres et fidèles étaient massés sans masque. Dans ce journal, la tentative de réconciliation entre l'Europe et la Turquie et la mobilisation des fans de Britney Spears pour libérer leur idole de la sévère tutelle de son père. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invité, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dîner clandestin, contrôle et verbalisation ce week-end et puis lutte contre l'insécurité, menu chargé ce matin, rendez-vous à 8h15.
Juste après ce journal, très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. La suite du feuilleton caviar champagne, formule à 490 euros qu'on évoquait hier. Des soirées clandestines qui pourraient coûter beaucoup plus cher que cela à leurs participants depuis que la justice s'en mêle. L'accusation contre des ministres a été démentie. Alors, qui était présent? On va finir peut-être par le savoir. Surtout qu'un photographe, lui, était bien là, sollicité pour immortaliser ces soirées organisées par le chef Christophe Leroy. Il s'appelle Jean-François Déjac et il témoigne en exclusivité sur Europe 1.
Tout se passe très gentiment au début. Il y avait des soirées hippies sur Johnny Hallyday, machin, ceci, cela. C'était abordable. Les mecs payaient 60 balles. Enfin, tout le monde était vraiment content. Je veux dire, c'était... Et puis le Covid arrive. Le mec commence à devenir fou. Il triple les tarifs, Christophe Leroy, et il fait venir 6 personnes dans une salle, 15 dans une autre et re-15 dans une autre. Et là, vous vous retrouvez au milieu d'un bordel, me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça a été la course à l'oseille, mais on lui dit, mais attends, t'as pas l'impression tout de même qu'un jour, t'as pas qu'un mec qui va porter plainte tout de même? J'en ai rien à foutre, je les emmerde, je suis chez moi, domicile privé. Là, il y a vraiment problème de mise en danger de la vie d'autrui. Moi, je n'ai jamais vu de ministre. Chalençon qui dit qu'il y a des ministres, c'est son problème. Moi, chez Christophe Leroy, je n'en ai jamais vu. Que maintenant, depuis un mois, ils aient fait d'autres trucs. J'en sais rien du tout, puisque j'ai complètement décroché.
Impressionnant, hein ? Impressionnant que ce témoignage, celui de Jean-François Déjac au micro Europe 1 de Pierre Herbulot, témoignage exclusif à retrouver sur europe1.fr.
On change un petit peu d'atmosphère. C'est une habitude comprise de nombreuses paroisses depuis un an. Diffuser les messes en direct sur Internet. On entend ici la célébration d'hier à Saint-Eugène à Paris. Mais sur la page YouTube de cette église, une autre vidéo a été retirée.
Et ce, après la révélation par le journal Le Parisien de l'organisation d'une messe de Pâques bien peu respectueuse des gestes barrières, Damien Mestre.
Oui, on voit clairement que les prêtres comme les fidèles ne portent pas forcément le masque, bien au contraire. L'église est pleine, les distances ne sont pas respectées. L'on aperçoit même un prêtre donner l'hostie de sa main directement dans la bouche des communiants. En plus de cela, la vidéo montre une série de baptêmes où les personnes plongent la tête dans l'eau du même baptistère, les uns après les autres. Les images ne laissent donc aucun doute, si bien que le diocèse de Paris se dit stupéfait. Le port du masque est censé être obligatoire dans l'église, tout comme la distanciation. Le diocèse déplore donc la tenue de cette cérémonie et explique s'en désolidariser avant de promettre des suites en interne.
Damien Mestre pour Europe 1. Et au lendemain du week-end de Pâques, c'est à tombeau ouvert que doit maintenant avancer la vaccination. Après 10 000 injections en 3 jours au Groupama Stadium de Lyon, le Stade de France en configuration vaccinodrome ouvre ce matin avec un objectif là aussi de 10 000 injections par semaine.
C'est aussi aujourd'hui que vont commencer les vaccinations à domicile par des infirmiers et infirmières. Virginie Salmen, il s'agit de n'oublier personne.
Oui, parmi les 75 ans et plus, près de 40% ne sont toujours pas vaccinés. Ce sont ces personnes-là à qui il faut parfois apporter le vaccin à domicile.
Des personnes qui peuvent être grabataires, qui peuvent être perfusées, qu'on ne peut pas facilement déplacer en ambulance, hein, des gens qui sont sous oxygène.
Catherine Kiernidis, présidente du syndicat des infirmières et infirmiers libéraux, il va falloir organiser les tournées au millimètre.
La difficulté qui va se poser, c'est qu'on a un temps limité pour organiser la vaccination, puisque la durée de vie d'un flacon entamé est limitée dans le temps. Il faut qu'on utilise le flacon dans les 6 heures, y compris pour l'AstraZeneca. Et donc, pour un flacon qui fait 10 doses, peut-être 11 selon les types d'aiguilles, il faut avoir 10 personnes à vacciner dans les 6 heures qui viennent.
Au total, c'est un potentiel de vaccination de plusieurs millions de personnes, détaille Patrick Chamboré-Don, qui dirige l'Ordre National des Infirmiers.
On sait environ qu'en France, il y a 5 à 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. On sait qu'il y a énormément de patients qui sont concernés par la fracture numérique, donc on peut penser à environ 10 millions de personnes.
Les infirmiers pourront aussi vacciner dans leur cabinet sur rendez-vous.
Virginie Salmen.
Une question de société va monter dans le débat cette semaine. Il y a ce visage à la une du Figaro ce matin, celui de Michel Houellebecq.
Une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect, affirme l'écrivain dans une tribune, alors qu'une proposition de loi de l'ancien socialiste Olivier Falorni doit être débattue jeudi à l'Assemblée. Michel Houellebecq part du principe que personne n'a envie de mourir, personne n'a envie de souffrir non plus. Il suggère notamment de recourir davantage à la morphine et à l'hypnose pour soulager les malades.
8h05 sur Europe 1. Erdogan a cessé de défier le monde, nous disait Vincent Hervouet dans son regard international. C'était à 7h15. Et c'est pour cela que les deux plus hauts dirigeants de l'Union européenne vont en Turquie aujourd'hui pour le rencontrer.
Oui, mission périlleuse pour Ursula von der Leyen et Charles Michel après une année 2020 marquée par de très fortes tensions. Jean-Sébastien Soldaini.
Le chef de la diplomatie européenne évoque un nouveau chapitre. Il faudrait plutôt parler d'une opération commando pour apaiser Recep Erdogan. Au-delà des tensions récentes en Méditerranée, au-delà du jeu du président turc en Libye ou dans le Haut-Karabakh, il y a toujours la question des réfugiés syriens, le moyen de pression préféré d'Ankara, 4 millions de personnes en tout, et une aide humanitaire qui ne suffit plus. Alors pour mieux aborder ces sujets qui fâchent, Charles Michel et Ursula von der Leyen ont rempli la valise diplomatique. Ils proposeront de moderniser l'union douanière entre l'Europe et la Turquie et surtout de faciliter les démarches pour entrer sur le sol européen. Au milieu de tout ça, Ursula von der Leyen et Charles Michel devront aussi glisser quelques mots sur le respect des droits de l'homme. La Turquie vient tout juste de quitter la convention de lutte contre les violences faites aux femmes et tente d'interdire un parti pro-kurde. La tendance doit s'inverser pour repartir du bon pied. Bruxelles l'affirme, il ne s'agit pas de négocier. Pourtant, ce que cherchent les deux responsables européens, c'est bien du donnant-donnant.
Jean-Sébastien Soldaini, deux autres informations à l'étranger. En Indonésie, le bilan des inondations est désormais de plus de 150 morts, alors qu'on recherche toujours des personnes emportées par les glissements de terrain. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est pris entre des négociations pour fermer son gouvernement et son procès pour corruption. Il dénonce une chasse à l'homme.
Toute cette procédure contre moi a été menée en faisant un usage illégitime du pouvoir confié au procureur. C'est une tentative de coup d'État.
Vous restez avec nous dans un instant sur Europe 1. Air France, dont le plan de sauvetage est validé par la Commission européenne.
Et puis Britney Spears, dont les fans se mobilisent contre la stricte tutelle de son père.
A tout de suite, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h09, la suite du journal, François Geffrier.
Deux départs de feu hier à la collégiale Saint-Nicolas, église située à Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord. Il y a d'importants dégâts, des tableaux, du mobilier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rendra sur place dans la matinée. Après son passage à ce micro dans quelques minutes.
L'information a été confirmée il y a quelques minutes à peine et c'est une bonne nouvelle pour la compagnie Air France. Clément Le Saffre, l'État va apporter 4 milliards d'euros à son capital.
Oui, une opération en deux temps. D'abord, l'État va transformer un prêt de 3 milliards d'euros accordé l'an dernier à Air France en apport de fonds propres. Puis, dans un deuxième temps, il y aura une augmentation de capital d'un milliard d'euros. Ça fera monter l'État jusqu'à 30% du capital d'Air France contre 14 aujourd'hui. Le plan a été validé par Bruxelles et approuvé par le conseil d'administration d'Air France hier soir. En échange, la compagnie va devoir céder 18 créneaux d'atterrissage et de décollage à Orly. Les créneaux Paris-Barcelone ou Paris-Nice, par exemple, c'est le nerf de la guerre dans l'aérien. Tous les aéroports ont des plannings de vol et chaque compagnie négocie ses places dans ses rotations en fonction de son nombre d'avions et de sa capacité à les faire voler plus ou moins de fois dans une journée. Air France détient 300 créneaux quotidiens à Orly, soit une belle majorité du planning de l'aéroport. Grâce à ça, la compagnie peut effectuer 125 000 vols par an, mais avec cette recapitalisation, elle va céder une petite partie, 4% de ses créneaux. Bruxelles demandait plus, mais nous avons bien négocié, se félicite-t-on à Bercy ce matin. Ce nouveau soutien doit permettre à Air France KLM de surmonter la crise du Covid. Reste à savoir si ce sera suffisant. En un an, les pertes du groupe ont doublé. Elles atteignent désormais 11 milliards d'euros.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
Toxique. Immense tube de Britney Spears, bien sûr, toxique, comme cette relation, cet enfermement que subit la star depuis maintenant 13 ans.
Oui, et c'est un documentaire qui fait sensation et scandale. Vous allez en entendre parler. Framing Britney, diffusé sur la plateforme Prime Video, qui raconte comment elle en est arrivée à être sous la tutelle de son père depuis 2008. Angèle Châtelier nous raconte.
Britney Spears a besoin de notre aide.
Qu'est-ce qu'on veut ?
Libérer Britney !
Quand ça ?
Maintenant !
Des appels comme celui-ci abondent sur les réseaux sociaux, sous le mot-clé « Free Britney », un mouvement de milliers de fans de Britney Spears, persuadés qu'elle est prisonnière de son père depuis 13 ans. Elle a été mise sous sa tutelle après une descente aux enfers, faite d'addictions et de scandales. En tant que tuteur légal, il a la main mise sur les moindres faits et gestes de la chanteuse de 39 ans, mais surtout sur sa fortune, estimée aujourd'hui à 60 millions de dollars.
Nous, en fait, on veut qu'elle soit libre.
Damien, 26 ans, passe plusieurs heures par semaine à recouper les déplacements de Britney Spears, à éplucher ses posts sur Instagram aussi, à la recherche de signes ou d'appels à l'aide.
Les gens, quand ils vont en prison, ils savent qu'ils vont sortir. Elle, elle est en prison toute sa vie.
En août dernier, Britney Spears a déposé une demande au tribunal pour se défaire de la tutelle de son père, actuellement prolongée jusqu'en septembre. Mais elle dispose d'une arme redoutable. Elle a affirmé à son avocat qu'elle ne remonterait pas sur scène tant que son père serait en charge de sa carrière.
Baby One More Time, autre tube de Britney Spears.
Oui, on a commencé par Toxic pour le jeu de mots avec Toxic, mais là, on est dans la playlist de François Geffrier.
Merci beaucoup.
Les années 2000.
Oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Années 2000, ça, c'est même, peut-être même avant, non?
Je sais pas, j'ai 2003. François Geffrier, c'était le journal de 8h. On va rester sur ce doute-là et rester jeune surtout. 8h12 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Dans un instant, l'invité de Sonia Mabrouk, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Bienvenue à vous et bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Vous excluez toute participation d'un ministre ou d'un secrétaire d'État à des dîners clandestins ?
À ma connaissance, il n'y en a pas eu. Mais je voudrais dire ici qu'il n'y a pas deux règles. La même règle pour tous existe en France. Il y a autant de restaurants qui sont contrôlés dans tous les quartiers de Paris, dans toutes les villes de France. Pas d'un côté les bourgeois qu'on laisserait continuer à festoyer, puis de l'autre le peuple qu'on viendrait contrôler. C'est une règle qui s'applique à tous. C'est ce que je donne comme consigne aux policiers et aux gendarmes. Une enquête a été déclenchée suite au reportage de M6, mais à ma connaissance, il n'y a pas de ministre.
À votre connaissance, c'est important. Vous êtes l'homme le plus renseigné de France en tant que ministre de l'Intérieur.
Voilà, je ne sais pas si je suis l'homme le plus renseigné de France. En tout cas, je peux vous dire qu'à ma connaissance, il n'y a pas de ministre. Je voudrais simplement dire peut-être sur ce point, indépendamment évidemment des restaurants clandestins, des fêtes clandestines qui sont des actes anti-citoyens puisqu'ils participent à la propagation du virus, quand la quasi-intégralité des Français font attention, à quel point la rumeur est dure pour notre démocratie. Et Pierre Desproges disait dans un de ses sketchs « Plus menteuse que la rumeur, tu meurs ». Mais je crois que vraiment on devrait réfléchir à cette idée que c'est le soupçon qui permet de condamner les gens et non pas la vérité. Et j'ai vu s'affoler sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire pour ça que j'ai commandé une enquête également, pour que tous les Français soient informés et soient sûrs de leur jugement. Une continuité, alors même que ce monsieur Chalençon continuait à dire que ceci était de la blague, et que finalement il avait menti.
Il s'est rétracté après voilà, l'ouverture d'une enquête.
Pour se faire une fausse publicité, mais enfin je crois qu'une publicité qui peut lui coûter cher. Je crois que cette rumeur continue à exister, et cette rumeur elle sape les fondements de la démocratie. Je dis à vos auditeurs et je dis à chacune et à chacun d'entre nous, essayons de remplacer la réflexion par le réflexe, parce que cette rumeur, elle vient, je crois, saper profondément la confiance que nous avons
mais
tous
monsieur
en nos
le
institutions.
Ministre, si saperait les fondements d'une démocratie, ce serait un défaut d'exemplarité. Vous dites qu'il n'en est pas question, mais on est d'accord qu'un tel défaut...
C'est évident que s'il y avait quelqu'un qui est membre du gouvernement participer à un dîner, je n'ai pas à prendre les décisions que prendrait le président de la République ou le Premier ministre, mais je considérerais qu'il, personnellement, il ne serait pas à la hauteur de sa fonction.
Sanction et démission.
Je ne suis pas le Premier ministre et président de la République, mais ça me paraît très juste.
Les Français, vous l'avez dit, sont en tous les cas, dénoncent un deux poids, deux mesures. Certains dénoncent un État intransigeant quand il s'agit, monsieur le ministre, d'un honnête citoyen qui dépasse de quelques instants le couvre-feu et un État permissif avec la France d'en haut qui s'acoquine justement dans des dîners clandestins.
Ben c'est faux. La police intervient autant pour les dîners cachés des restaurants du 16e arrondissement quand il y en a, et des barbecues dans les quartiers populaires. C'est faux. Je peux en témoigner tous les jours de ce travail. Je constate d'ailleurs que souvent, ceux qui sont les plus réfractaires à l'autorité, c'est ceux qui sont les plus bourgeois, on va dire ça comme ça, qui disent on a les moyens de payer, ou qui envoient balader les policiers disant qu'ils ont des relations. Eh bien, je peux vous dire, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, je suis sûr que c'était le cas avant, qu'il n'y a pas deux types de police, selon que vous êtes grand ou misérable, comme disait La Fontaine. Le président de la République souhaite que ce soit les contrôles Covid, les contrôles stupéfiants, comme je l'ai fait lorsque j'étais en charge des impôts, pour pareil tout le monde.
Voilà. Est-ce que
donc,
vous craignez...
C'est la même règle.
Ouais. Est-ce que vous craignez que ça craque, qu'il y ait des débordements?
Écoutez, ça fait un an que les Français dans une grande compréhension, avec un grand sens civique, respecte les règles qui sont difficiles. Ne pas aller voir ses petits-enfants quand on est une grand-mère, ne pas vivre quand on est un jeune, ne pas pouvoir sortir plus qu'on ne peut le faire. Je suis sûr que ça frustre les Français, que ça peut les énerver parfois, mais qu'ils le respectent franchement dans leur quasi-intégralité.
Ils le respectent parce qu'il y a un horizon qui a été donné par le président, mi-mai. Vous avez un impératif, vous y tenir ?
Ils le respectent d'abord parce qu'ils sont des citoyens, qui sont conscients d'habiter une même nation, et que chaque geste de leur part, la fraternité, dit notre devise, est à respecter. Et puis oui, le président de la République a donné un horizon, qui est le début de cet été, pour faire vite, grâce à la vaccination. Et je veux dire à quel point tout le monde est mobilisé pour cette vaccination. J'y étais encore ce week-end, visitant un Marc-en-Barœul d'ailleurs. Là, c'était une clinique privée et les collectivités locales en lien avec l'État. Des vaccinations, 6000 vaccinations dans ce vaccinodrome en un week-end. Donc les choses avancent et j'espère qu'elles nous permettront tous de retrouver une vie normale.
Mais là encore, impression qu'il y a beaucoup de communication, d'images pendant le week-end et puis qu'ensuite ça s'amenuise au lieu de vacciner.
Bon, c'est pas vrai. Ce matin déjà, à 9h du matin, au Stade de France, je remercie les sapeurs-pompiers de Paris et de manière générale les sapeurs-pompiers vont ouvrir un grand vaccinodrome qui ouvrira tous les jours, qui pourra faire 10 000 vaccins par semaine. C'est absolument énorme. Ce week-end à Lyon, moi je remercie l'Olympique Lyonnais qui a laissé son stade ouvert également pour qu'on puisse vacciner par milliers des personnes. On voit qu'il y a 38 vaccinodromes, ne serait-ce que par les sapeurs-pompiers. Je sais que l'armée se mobilise également. Non, il y a une confiance à avoir aussi dans les vaccins.
et dans les doses qu'elles suivent.
Et notamment, mais d'abord, avant même les doses, si vous me permettez, il y a des vaccins dans ma région, des Hauts-de-France par exemple, des vaccinodromes qui ont fermé avant la fin officielle de la fermeture, alors qu'il restait des doses parce qu'une partie des personnes ne voulait pas se faire vacciner par AstraZeneca. Donc là encore, la rumeur. Voilà. Donc il faut absolument dire aux Français qu'il faut se faire vacciner, que tous les vaccins sont des bons vaccins. Moi, dès que je le pourrai, dès que je ferai partie...
Difficile, monsieur le ministre, après les atermoiements de ce même gouvernement sur l'AstraZeneca notamment.
Ce n'est pas un atermoiement, c'était
encore la confiance.
Je ne le crois pas du tout, au contraire, c'était une règle de précaution. Lorsque les instances européennes, lorsque nos pays voisins, je rappelle que l'Allemagne, avant nous, avait suspendu pour vérifier le sujet du vaccin AstraZeneca, nous avons suspendu. Et lorsque les autorités sanitaires, les médecins, ont constaté qu'il n'y avait pas de problème, nous l'avons rétabli. Justement, ça devrait encourager les Français à voir que le gouvernement n'est pas dans la politique du chiffre ou dans la course de vitesse, mais ne joue pas avec leur santé.
Alors
ce vaccin est un bon vaccin.
Peut-être êtes-vous dans les chiffres, puisque depuis ce matin, en tous les cas, et après le week-end pascal, c'est la fin d'une certaine tolérance pour les déplacements des Français. Et malgré tout, il y a eu quand même des verbalisations et des contrôles.
Il y a eu plus de 103 000 contrôles ce week-end pascal, avec 10 500 verbalisations. Essentiellement pour non-respect du couvre-feu après 19h. C'était une consigne que j'avais donnée aux policiers et aux gendarmes. Et au regroupement de plus de 6 personnes. Permettez-moi d'ailleurs, parce qu'on passe souvent d'un événement à un autre, revenir sur ce qui s'est passé sur les quais à Lyon.
J'allais vous en parler, oui.
Bon, voilà, et la manifestation de Marseille. Les Français doivent savoir qu'avec la justice, nous continuons ce travail, même lorsque médiatiquement, on n'en parle plus. Et il y a eu des comparutions immédiates et des personnes condamnées à Marseille. Et par ailleurs, on continue une enquête pour retrouver les organisateurs de cette manifestation. Plusieurs personnes ont été entendues. Je laisserai le parquet de Marseille communiquer plus précisément.
Au moment même, Gérald Darmanin, pourquoi les policiers ont eu l'ordre d'intervenir en retard ?
Mais parce qu'une manifestation qui a plus de 6000 personnes non déclarées, avec des enfants de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans, on n'envoie pas les CRS et les gendarmes mobiles pour appliquer le non-port du masque. Il faut rester proportionné. La première chose que doivent faire les policiers de la République, c'est de protéger, y compris, malgré eux-mêmes, les personnes. Donc moi, je ne donne pas consigne de disperser des foules quand il y a des enfants de 3 ans ou 5 ans qui sont dans cette foule. Les parents sont irresponsables, ceux qui l'ont organisé sont irresponsables, ceux qui doivent être poursuivis et condamnés sont les organisateurs, mais il faut savoir rester toute proportion gardée. Ce que nous faisons, c'est nous luttons pour la vie. Et nous n'allons pas, sous prétexte que nous luttons pour la vie en empêchant les rassemblements, faire charger des CRS sur des familles. Personne ne le comprendrait.
Il n'est pas question de cela, mais certains se sont étonnés du temps qui passait pendant la soirée au carnaval, notamment à Marseille, alors que pour un contrôle généralement sur la route, vous intervenez extrêmement rapidement et que l'amende tombe très vite.
Non, mais je pense qu'il ne faut pas avoir tombé dans cette démagogie quand il y a 6000 personnes non déclarées dans une manifestation en encore une fois avec des familles, qui par ailleurs, une fois que nous pouvons faire des contrôles pour une partie d'entre eux, puisqu'il y avait l'ultra-gauche qui était très présente, s'en prennent aux policiers à coups de jets de pierre, de pavés, de mobilier urbain, cassent des vitres, prennent des voitures pour s'en faire des barrages, alors qu'il y a des enfants juste à côté. Je pense qu'il faut savoir rester proportionné, et c'est la grandeur, me semble-t-il, de la police de la République, de savoir quelle est la police du peuple, et qu'elle n'intervient pas que pour faire respecter des règles, elle le fait pour protéger les citoyens en premier. Mais je voudrais vous dire qu'à Marseille, ces personnes sont aujourd'hui poursuivies et condamnées. Je veux vous dire qu'à Lyon, c'est la même chose. Ces personnes sont poursuivies et condamnées. Je vois que, par exemple, les deux organisateurs du rassemblement des Quais de Saône seront jugés le 27 avril prochain. Et ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Et ils risquent un an de prison ferme. Je pense qu'il faut dire aux Français que nous poursuivons. Évidemment, c'est responsable.
Les policiers sont sursollicités sur différentes missions. Vous étiez hier avec le Premier ministre à Creil et à Méru, où malgré les renforts, les policiers subissent des guet-apens avec tirs de mortier. Certains disent qu'il y a une impuissance de l'État face à ces scénarios qui se répètent.
Alors, c'est faux. S'il y a aujourd'hui des violences urbaines, il y en a eu ce week-end aussi à Évreux, par exemple, c'est parce que la police de la République, sous l'ordre du président de la République, fait un travail extrêmement important de lutte contre les trafics de stupéfiants. Et quand vous dérangez des points de deal, c'est ce qui s'est passé à Creil, c'est ce qui s'est passé à Méru, c'est ce qui se passe à Évreux. Lorsque vous dérangez des points de deal qui rapportent entre 40 000 et 50 000 euros d'argent liquide par jour, et que vous faites des saisies records, et que vous mettez dans des fourgons de police des délinquants, il y a une réaction, parce que c'est de l'argent facile. Et je suis venu dire hier avec le Premier ministre à Creil, non seulement que nous continuons ce travail et que nous les encourageons, on a mis à disposition des CRS par exemple, mais surtout, c'est toujours la République, la police qui va gagner à la fin et pas les trafiquants.
Oui, mais est-ce que c'est la justice? Que répondez-vous à ceux dans l'opposition qui dénoncent un laxisme judiciaire et qui expliqueraient que ces agresseurs, ces délinquants n'aient pas du tout peur de la sanction, qu'il y aurait une impunité?
Je pense que c'est faux. Je pense qu'on
pas
doit...
de laxisme judiciaire.
Non, je ne le crois
toutes
pas.
Toutes les peines prononcées sont appliquées.
Moi, je ne critique jamais, comme vous le savez,
est-ce
des décisions de
justice. Est-ce que toutes les peines prononcées sont appliquées, monsieur le ministre?
Mais moi, je ne suis pas le garde des Sceaux. Je suis sûr que
mais
l'administration
vous avez,
de la justice
est l'affaire... Est-ce que vous avez une politique en cohérence avec le garde
des Sceaux? L'administration de la justice est l'affaire à un manque criant de moyens, on le sait, depuis des dizaines d'années. C'est notre gouvernement qui l'augmentons de quasi 10% son budget. Et il y a chez les policiers et les gendarmes parfois des manques de preuves lorsqu'ils arrêtent des personnes parce qu'il n'y a pas assez d'images de caméras de vidéoprotection. Hier à Creil, dans le quartier où nous sommes allés, moins de 2 caméras pour quasiment 5000 habitants. On voit bien que c'est difficile ensuite pour retrouver les personnes la nuit qui sont cagoulées. Et il faut effectivement que les maires mettent des caméras de vidéoprotection. Nous équipons à partir du 1er juillet, à la demande du président, tous les policiers et tous les gendarmes de caméras piétons qui nous aideront évidemment à interpeller et pouvoir faire condamner les personnes. Nous augmentons le nombre d'officiers de police judiciaire qui permettent de faire des enquêtes. Nous augmentons le nombre de policiers, plus de 10 000. Et partout dans les commissariats de France, il y a plus de policiers aujourd'hui. Et le président de la République aura l'occasion d'en reparler sans doute dans le cadre du Beauvau de la sécurité. On doit avoir une meilleure police, mieux formée, mieux équipée pour que la justice puisse mieux condamner.
Il y a aussi le renseignement sur le front de la lutte antiterroriste. La garde à vue des 5 femmes interpellées à Béziers a été prolongée. Une jeune femme de 18 ans est la principale suspecte. C'était une menace sérieuse qui visait des églises lors des fêtes de Pâques?
Très certainement. La DGSI, je voudrais le remercier par ses renseignements et son travail, sous l'autorité judiciaire d'ailleurs, le juge des libertés de la détention, puis aujourd'hui le parquet national antiterroriste, qui communiquera s'il en a envie, a eu, me semble-t-il, raison à la fois de travailler comme il l'a fait et de prémunir ce qui s'est passé ce week-end, un week-end pascal en paix, pour nos compatriotes chrétiens, je pense aussi à nos compatriotes juifs et à nos compatriotes musulmans dans quelques jours à l'heure du Ramadan. Et je pense que notre devoir, c'est de continuer à dire aux Français que le risque terroriste est très grand dans notre pays, malgré le Covid, malgré les restrictions, et que c'est d'autant plus admirable de la part de la police que de continuer à travailler comme elle le fait pour nous protéger, à nous déjouer des attentats.
Mais une question sur l'islam politique et l'islam radical. Vous avez demandé, Gérald Darmanin, à ce que l'association Millî Görüs, au cœur de la polémique liée au financement de la plus grande mosquée d'Europe à Strasbourg, soit exclue des assises territoriales de l'islam qui vont être organisées. C'est tout?
Bah d'abord, madame, ce que nous faisons, c'est que nous rejetons de l'arc républicain ceux qui n'ont pas voulu signer la charte des valeurs. Et c'est-à-dire que toutes les associations qui n'ont pas voulu reconnaître que la loi de la République est supérieure à leur loi, que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas négociable, ne doivent plus faire partie des instances représentatives de l'islam de France.
Et vous trouvez que c'est une sanction à la hauteur de ce qu'il leur est reproché?
D'abord, c'est une sanction très importante, parce que ça veut dire qu'ils sont sortis de la représentation de l'islam de France. Deuxièmement, quand la loi séparatisme sera adoptée cette semaine au Sénat, se termine cette discussion, nous pourrons nous opposer à la vente de lieux de culte à des États étrangers, nous pourrons nous opposer à des financements étrangers pour ces associations, nous pourrons dissoudre ou suspendre ces associations.
C'est ça l'objectif ? C'est la dissolution de cette association ?
L'objectif, c'est que les ennemis de la République, ceux qui s'opposent aux valeurs de la République, ne puissent plus continuer à vivre
donc
en France.
Donc l'objectif de Gérald Darmanin, par exemple, par rapport à cette association Miligorus, c'est sa dissolution ?
Moi, je ne juge les gens que sur les faits, comme je l'ai fait sur Baraka City.
Vous n'en avez pas assez ?
Quand je l'ai fait,
des faits.
En tout cas, oui, des faits. Baraka City, comme je l'ai fait sur le CCIF, par exemple, comme je l'ai fait sur les loups gris à la demande du président de la République. Donc voilà, je ne suis pas dans la politique de la rumeur, pour reprendre le début de notre conversation. Mais ce qui est certain, c'est que d'abord, avant qu'on demande des responsabilités à l'État, demandons aux collectivités locales d'être responsables. Et je redis encore une fois que je regrette profondément qu'après toutes les alertes, qu'après tous les débats,
monsieur le ministre,
qu'après tous les avertissements, oui, la mairie de Strasbourg, verte, continue à financer
mais
cette association.
Il vous reproche la même chose, cette association. Est-ce que vous-même, l'État, je veux dire, a toujours été au clair avec cette association? Un article de Libération met en avant une autorisation d'ouverture d'une école accordée en 2019 et des contrats de subvention en 2020. Vous le réfutez?
Mais non, je ne le réfute pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est quand même très...
Avant, il respectait l'égalité homme-femme, il respectait les lois de la République.
Avant, personne ne leur avait demandé de signer la charte du président de la République. Et donc, je peux vous dire que l'instruction a été donnée, qu'aucun financement ne concerne plus ces associations. Je peux vous dire par ailleurs, avec la plus grande fermeté, que nous avons prévenu la maire de Strasbourg, que la préfète elle-même, elle l'a communiqué d'ailleurs, a prévenu la maire de Strasbourg. Et je regrette une nouvelle fois qu'après toutes ces alertes, une association qui ne signe pas cette charte, avec les propos incroyables du président Erdogan sur la France et sur le président de la République, avec ce que nous savons de l'islam politique et parfois des ingérences étrangères sur notre sol, la mairie verte de Strasbourg continue à souhaiter financer ce
Merci
lieu de culte.
Merci Gérald Darmanin d'avoir été notre invité ce
Merci
matin sur Europe 1 et bonne journée à vous et à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. A tout de suite pour l'info et la météo sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h32 sur Europe 1. Nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Objectif 10 000 injections par semaine. Les premières doses délivrées dans une demi-heure au Stade de France. Yasmina Katou, vous êtes sur place pour Europe 1. Le stade qui devient donc centre de vaccination dès ce matin et pour 6 mois.
Oui, devant la porte du Stade de France, tout est prêt pour l'accueil des futurs vaccinés. D'immenses affiches indiquent l'entrée au vaccinodrome tout autour du Stade de France. Un marquage au sol blanc pour respecter les gestes barrières. Et une petite file commence même à se créer derrière les barrières mises en place devant l'entrée. Michel est arrivé en avance, la retraitée a rendez-vous à 9h15 et se déplacer jusqu'au Stade de France avec sa canne a été compliqué.
Hier à 9h et à 8h30, ils m'ont envoyé un message comme quoi qu'il fallait au Stade de France. Débrouillez-vous.
Alors qu'elle était prévue où, votre deuxième injection?
À l'auberge.
Pas loin de chez vous.
La première injection, voilà. J'ai pris le tramway et après j'ai pris le bus 239.
Combien de temps de trajet?
Plus qu'une demi-heure. Et moi j'ai deux prothèses, je suis handicapée. Voilà.
Mais vous êtes quand même heureuse d'avoir cette deuxième injection?
Ah oui.
Et Michel se fera vacciner avec le Pfizer. D'ailleurs, plus aucun créneau n'est disponible pour se faire vacciner avec ce sérum. En revanche, une trentaine de rendez-vous sont disponibles aujourd'hui pour ceux qui souhaitent une dose de Moderna.
Yasmina Katou en direct du Stade de France pour Europe 1. Accélération de la campagne de vaccination qui passe aussi par la mobilisation des militaires via les hôpitaux des armées. 7 d'entre eux ouverts dès aujourd'hui. Les précisions ce matin du ministre de l'économie concernant le nouveau soutien à Air France. 4 milliards d'euros d'aide. L'État va monter au capital de la compagnie malmenée par la crise sanitaire. En échange, Air France devra céder 18 de ses créneaux de vol à d'autres compagnies aériennes. À ma connaissance, il n'y a pas une ministre présente dans des dîners luxueux organisés à Paris. Les mots il y a quelques minutes sur Europe 1 du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui fustige la rumeur qui sape les fondements de la démocratie. Le ras-le-bol du cycliste Nasser Bouhanni, il annonce ce matin dans le journal L'Équipe son intention de porter plainte après avoir reçu des insultes sur les réseaux sociaux. Ça tourne au harcèlement, regrette-t-il, après son déclassement dans la course Cholet-Pays de la Loire pour un sprint dangereux. Et puis, avant le PSG demain face au Bayern, le début des quarts de finale aller de la Ligue des Champions avec notamment un sommet entre deux monstres européens, 19 titres à eux deux, le Real Madrid face à Liverpool.
Merci beaucoup Marion Calais, 8h34, c'est Laurent Cabrol qui est avec nous pour nous annoncer le froid.
Oui, le froid mort et n'en démord pas, il est là, il est bel et bien là et les températures sont encore très très basses, des moins 7 degrés en Sologne en ce moment, qui a pris la tête du peloton, il y a des gelées importantes dans la Marne, dans Lyon, le Nivernais, la Sarthe, etc. Bref, c'est une matinée très très difficile et encore demain, elle le sera bien plus comme après-demain. Donc oui, nous n'aurons pas sorti de l'auberge si je puis dire. Les températures sur la moitié sud se situeront actuellement entre 5 et 15 degrés. Dans la journée, 8 à 15 degrés français, ce sera la fourchette. Et puis, sachez que côté ciel, eh bien, c'est la région, disons, les régions de la moitié nord qui sont les plus pénalisées par à la fois des averses de pluie et quelques giboulées de neige. Mais enfin, elles seront là plutôt ce matin près de la Manche et plutôt cet après-midi sur la Normandie, la Franche-Comté, les Alpes du Nord. Et sur la région parisienne, il n'y en aura probablement pas. Mais enfin, le ciel sera souvent menaçant et des éclaircies. Enfin, pour achever ce bulletin, Poitou-Charentes, Massif Central, dans le Rhône, la vallée du Rhône et le bassin méditerranéen.
Merci voilà. Beaucoup, Laurent Cabrol. Il est 8h36 sur Europe 1. Très bon réveil. Si vous nous rejoignez, sachez-le, Jimmy Mohamed arrive. Notre santé.
Retour de l'angoisse des cours à distance à la maison pour les enfants mais aussi pour les parents. Mais rassurez-vous, j'ai 2-3 astuces pour surmonter cette nouvelle épreuve.
Fanny Agostini, Notre Planète, et puis Nicolas Canteloup dans 10 minutes pour la revue de presse. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 8h37 sur Europe. Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, le médecin de famille si j'ose dire. On a besoin de quelques conseils très pratiques ce matin en fait. Les écoles sont désormais fermées et débutent aujourd'hui les cours à distance pour tous. Est-ce que vous avez quelques conseils simples hein, pour surmonter au mieux cette période ?
Oui Mathieu, vous avez raison. Alors il faut en cette période être indulgent, c'est difficile et donc on fait déjà de son maximum et une fois que ça ira mieux, eh bien on se rattrapera. Alors il faut bien comprendre que le processus de mémorisation est meilleur quand les enfants sont actifs et non passif. Alors l'exemple assez caricatural, c'est un enfant qui va être derrière son écran, à distance, avec Zoom, et qui va rapidement s'ennuyer car il n'a aucune interaction. L'information, elle est descendante du professeur vers l'élève et donc il va s'ennuyer et il va rapidement décrocher. C'est ce que de nombreux étudiants ont pu décrire, notamment cette année, car il n'y a aucune motivation, sans parler parfois du cours qui est très honnêtement soporifique. Alors comment rendre
ça
actif
peut arriver
un
aussi,
enfant
ouais.
Eh oui, ça, malheureusement,
ça sent le
il faut être honnête. Eh oui.
Sont longues les études pour être médecin, non ?
Elles sont longues, mais elles étaient en présentiel. Heureusement, sinon j'aurais tout foiré, c'est sûr et certain. Alors, comment rendre actif un enfant dans ses acquisitions ? Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de recette miracle. Mais je vais vous donner un exemple tout simple. Lorsque un enfant cherche, par exemple, à orthographier un mot, car il ne le connaît pas, le premier réflexe qu'il va avoir, ou que nous allons avoir, c'est de le googliser. On va aller sur la barre de recherche, et puis on va taper le mot. Sauf que finalement, on va être très passif. Et donc, ce qu'on peut proposer, eh bien, c'est de rechercher, par exemple, avec un dictionnaire. Vous allez avoir un processus actif, vous allez encoder l'information, ça va la mettre en mémoire et puis ensuite vous allez la stocker sur le long terme.
Et du côté des rythmes, Jimmy, on essaie peut-être aussi de faire des pauses régulières même à la maison ?
Exactement, car l'attention elle peut varier d'un enfant à l'autre. Certains vont pouvoir la maintenir durant de nombreuses heures, mais d'autres vont avoir besoin de ce qu'on appelle des pauses parking. Alors, une pause parking, qu'est-ce que c'est ? C'est des moments où l'enfant va avoir une baisse de sa vigilance. Il va se mettre dans une forme d'état de veille passif. Dans le cerveau, il va se passer des choses. Vous allez avoir certaines ondes qui vont ralentir sans pour autant s'endormir. Ces pauses, elles durent 10 à 20 minutes et c'est un très bon moyen pour le cerveau de se reposer, de récupérer l'attention qu'il n'était plus en mesure d'assurer. Et dans ces moments-là, lorsqu'il y a la pause, pour qu'elle soit efficace, le corps et la tête ont besoin d'un appui et c'est pourquoi l'enfant se laisse aller sur son bureau, la tête dans ses bras. Et donc, il faut le laisser faire ça. En classe, on aura tendance à l'engueuler car on pense que c'est un feignant. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça permet tout simplement de donner la parole à son corps. Car finalement, nous ne dormons pas car nous sommes fatigués, mais car le corps appelle au repos pour éviter de se fatiguer. Et sur ce, moi je vous laisse, je vais aller faire une petite sieste.
Mais c'est fascinant ça. Alors j'imagine qu'après, selon les enfants, on est plus ou moins allongé la tête dans les bras en avant sur le bureau. À partir de combien de temps on s'inquiète ? 5 heures, moi je faisais ça 5 heures par jour. Allez.
Exactement. Pour vous, c'est un cas désespéré, Mathieu. Désolé,
Jimmy Mohamed. Alors, fascinant. Alors là, je sais déjà que je vais mettre mon réveil à 14h59. Mes amis, de 15h à 16h, sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. L'homme est-il si différent des animaux ?
Exactement. Est-ce que c'est le seul à aimer, à rire, à posséder une morale ou même à faire la guerre ? On recevra l'ethnologue Jessica Serra. Alors, soyez au rendez-vous.
C'est l'homme avec un grand H. Hein.
Exactement. Oui, oui.
Merci Jimmy Mohamed. 8h41 sur Europe 1, Notre Planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors ce matin, Fanny, vous nous parlez des entreprises qui se lancent dans le recyclage des métaux rares que l'on trouve dans nos appareils électroniques.
Oui, et c'est très important. Des entreprises comme WeCycle ou Xtrade qui ont ouvert des nouvelles filières de recyclage des métaux rares en France. Car normalement, le processus de recyclage des déchets électroniques est très coûteux et exigeant. Mais de nouvelles technologies permettent aujourd'hui de filtrer et de concentrer ces composés pour les remettre en circulation. Ces matériaux, ce sont le cobalt, le lithium, l'argent ou même l'or. Ils sont omniprésents et essentiels dans les appareils électroniques qui sont de plus en plus demandés. Rien qu'en France, quelques 25 millions de téléphones sont achetés chaque année et seuls 10% d'entre eux sont recyclés.
Oui, Fanny, vous dites que recycler les déchets électroniques, c'est en fait un double enjeu.
Oui, un enjeu écologique et stratégique. Écologique d'abord parce que l'extraction de ces métaux n'est pas sans impact écologique. Les mines de métaux sont synonymes de destruction de la biodiversité et de déforestation. Et pour extraire quelques grammes, cela revient à excaver des centaines de kilos de matière. L'enjeu, il est stratégique aussi puisque nous sommes dépendants des pays qui fournissent ces matériaux. C'est le cas de la Chine qui contrôle la majorité du marché. Et ces métaux, que l'on appelle aussi les terres rares, sont une ressource finie, il faut bien se le dire. Et l'utilisation croissante des appareils électroniques implique qu'ils vont devenir de plus en plus précieux. D'où l'intérêt de développer une économie circulaire autour des déchets électroniques. Et le potentiel, il est absolument immense, car selon l'ADEME, 100 millions de téléphones dormiraient, vous vous reconnaissez peut-être, dans les tiroirs français. C'est un sacré stock de métaux réutilisables.
Je me reconnais, je crois que j'ai le meilleur réseau télécom des tiroirs Ikea. Le recyclage de ces métaux rares, est-ce qu'il se fait mieux ailleurs que chez nous, Fanny ?
Alors, sur l'ensemble du tableau du tri et du recyclage des déchets, la Suède fait très fort. La Suède a mis en place un tri impératif des déchets électroniques en impliquant les associations, les citoyens et les collectivités locales, avec en plus de vastes campagnes de sensibilisation et d'accessibilité des stations de tri. Il y a le Japon qui est devenu la centrale de recyclage des déchets électroniques qui arrive de tous les pays voisins. Notons que cette production de déchets explose de par le monde et l'idéal d'un recyclage total est très loin, tellement le processus est complexe. Dans les pays occidentaux qui abondent en objets électroniques, on peut déjà commencer par se demander si on a vraiment besoin de tel ou tel gadget, tout en exigeant aussi une meilleure législation sur l'obsolescence programmée, évidemment.
Merci Fanny Agostini. Notre planète, et on était dans la poche de chacun et chacune, 100 millions de téléphones dans les tiroirs. Je me sens un peu moins seul et en même temps on se dit qu'il va falloir agir. Fanny Agostini, Notre planète sur Europe 1. 8h43, dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup va arriver. Julie s'est déjà installée. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu, on vous retrouve pour les infos du jour.
Oui, bien sûr, Julie. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer, regarde le monde manger aussi. L'info du jour, c'est l'affaire des dîners clandestins qui secouent toujours l'actualité. Je vais le lire, c'est moi perso, je trouve ça honteux. C'est oui, honteux. Voilà, on a vu les images des dîners de Christophe Leroy faire payer 3 endives aux boursins et des pâtes lustucrues, 400 balles. 400 balles, c'est odieux, c'est la cantine au prix du resto étoilé, franchement. Bon, accessoirement, il y a aussi le protocole sanitaire pas respecté. Bon, voilà, on s'en fout. La France a deux vitesses. Mais la mauvaise bouffe, ça, c'est intolérable. J'ai l'impression que je parle comme Gérard Larcher, là. Et puis, entre nous, Julie, c'est fou quand même. À longueur d'année, les politiques, on les accuse d'incompétence, de mensonges, de magouilles financières, et là, ils risquent tous de tomber pour une affaire de gnocchi trop cuit servi par un collectionneur mal coiffé. Cette épidémie sera vraiment pleine de surprises. Allez, on change de sujet. L'autre info, ce sont les photos de Paris postées sur les réseaux sociaux sur le hashtag saccage Paris, sur lesquels on voit des déchets sur les trottoirs et des graffitis sur les murs.
Oui.
Rien de très original, hein. Ce sont des photos de Paris, quoi. Voilà.
Voilà. Merci Mathieu. Allez, on poursuit toujours avec cette même polémique. Des ministres ont-ils participé à des dîners clandestins chez Pierre-Jean Chalençon? Éric Dupond-Moretti, bonjour.
Bonjour madame. Je fulmine, il n'y a jamais eu madame, vous m'entendez, jamais eu de ministre à ces dîners clandestins.
Ah bon.
Éventuellement Roselyne Bachelot, car quoi, Pierre Chalençon aime les antiquités.
Oh, dites donc, allons.
Mais
allons.
Est-elle vraiment ministre, madame?
Non.
C'est la question que l'on peut se poser.
Non, d'être gonflé. Pierre-Jean Chalençon nie aussi l'existence de ces dîners. Son avocat dit qu'il plaisantait, qu'il manie avec brio le sens de l'absurde.
Eh bien voilà, vous avez votre réponse, madame. Jeudi 1er avril, c'était un poisson d'avril, madame.
Ah,
et puis franchement, pourquoi des ministres paieraient 220 euros pour aller dans des restaurants clandestins, alors que chaque ministère a des cuisines et des chefs à disposition, et que des dîners clandestins dans des palais, on en fait tous les soirs gratos et chez nous. Franchement, madame,
vous
un
êtes
peu
sûr
de lucidité.
Vous êtes sûr que votre défense est bonne, là, hein?
Oui. Vous savez, c'était de l'humour.
Ah,
Je manie avec brio, comme Pierre-Jean Chalençon, le sens de l'absurde.
Je vous confirme, c'est de l'absurde. Merci beaucoup.
Un vrai chat, je retombe sur mes pattes. Des pattes à 400 balles. Des pattes aux truffes.
Oui, c'est bon. C'est la semaine du grand retour médiatique d'Édouard Philippe, une omniprésence qui doit inquiéter le chef de l'État. Emmanuel Macron, bonjour.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Alors, Édouard Philippe, vous fait-il peur ?
Écoutez, mais pas du tout. C'est le même Édouard Philippe que j'ai connu. C'est le même, en plus blanc, peut-être au niveau de la barbe, mais rien de plus.
Oui, vraiment les... très blanche, là, pour
oui, le coup. Très blanc, oui, très blanche. Mais les médias, écoutez, vous évertuez en vouloir en faire le Kennedy du Havre, alors que c'est juste un grand tout sec, un Avrel chauve de Normandie.
Oh là
voilà.
Là,
alors,
là, ça va pas.
J'ai lu son livre, non pas d'amertume, mais j'ai lu son livre dans lequel il ne dit rien. Hein. J'écoutais son interview chez Delahousse dans laquelle il ne dit rien non plus. Bref, j'ai bien fait de le virer, vous savez.
Mais à ce point-là, c'est vous qui
tenez
ses propos.
Mais oui. Écoutez, Édouard Philippe, vous voulez que je vous dise, c'est un boxeur qui ne veut pas monter sur le ring. Ben moi, j'appelle ça un spectateur, c'est tout.
Si vous voulez, alors bah, on va vous laisser, je crois, là-dessus. Hein.
Merci. Oui, voilà, c'était pas très drôle, mais voilà. Mon point de vue.
Merci, Monsieur le Président. Bonne journée quand même. Allez. On va revenir sur l'affaire des restaurants clandestins. Elle a été révélée par des journalistes de M6. Dans le viseur, Pierre-Jean Chalençon, grand collectionneur d'art. Il collectionne, entre autres, des objets de Napoléon. Bonjour Stéphane Bern.
Oh oui, je suis là. Je vais être drôle. Je vais essayer tout au moins.
Alors, vous le connaissez forcément bien, Pierre-Jean Chalençon.
Pierre-Jean... De moins en moins depuis cette affaire. Je le connais de moins en moins. Pierre-Jean dit qu'il collectionne les objets de Napoléon.
Oui.
Ces derniers temps, il collectionne surtout les conneries, visiblement. Et vas-y que je pose avec Dieudonné à la nif de l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Et vas-y que je vais faire des dîners avec des ministres, boulette sur boulette, décidément.
Et il aurait organisé des dîners mondains, il le dit clairement hein, dans une vidéo le 1er février, pour gagner un peu d'argent. Les menus allaient quand même de 180 à presque 500 euros avec homard et Saint-Jacques et tralala.
Voilà, oui, si vous voulez comprendre, c'est un petit peu Coluche, nouvelle formule.
Oui.
Hein, c'est pas les restos du cœur, c'est les restos du flouze. C'est oui. Juste pour se faire des ralouettes en or. C'était encore une affaire de homard, hein, comme de Rugy, vous vous souvenez le ministre de Rugy?
Ah, les homards au ministère, ah oui.
Oui, c'était quoi son prénom de Rugy? Je me souviens plus.
François de Rugy.
Bien joué.
Il y a des quiz dans la rue.
Oui, bon, je sais jamais. J'aime bien vous taquiner. Oui, encore une sorte d'homard. Il peut dire Omar m'a tué quelque part.
Oh, oui, on l'a fait mille fois. Hein.
Oh, je me ris dessus. Je me ris dessus, j'ai même pas de rechange.
Oh là là, fallait prévoir. Merci Stéphane. Pierre Ménès est à nouveau la cible d'accusation. C'était hier sur Europe 1. La comédienne Alice Belaïdi l'a accusée de l'avoir traité de salope et de sale bougnoule. Bonjour Pierre Ménès.
Ouais, ça y est, c'est après les gonzesses, c'est les bougnoules, les métèques, les non, enfin, j'ai noté quelque part ce que je dois dire, là. Les éléments de langage, le truc, mon cul. Oui, les Français issus de l'immigration et victimes du racisme systémique du patriarcat blanc.
Oh là là,
putain, ça devient de plus en plus tordu, tous ces trucs d'éléments de langage. Je sais même plus qu'est-ce que je dis.
Ça s'entend, oui. Est-ce que vous allez vous excuser auprès d'Alice Belaïdi?
Ah ben ouais, m'excuser. Bah ouais, de toute façon, je suis sur la lancée. Hein, je peux pas trop... voilà. Ben profitez-en hein, les autres, hein. Si quelqu'un veut que je m'excuse, je suis chaud hein, en ce moment, hein. J'ai que ça à foutre. Hein. S'il y a quelqu'un que j'ai traité de tapette dans le temps, non, s'il y a quelqu'un qui j'ai fait un chabit pendant une conférence de rédaction, même une journaliste d'Europe 1 peut-être,
non, hein, mais ça, s'il vous
plaît. Dans l'eau, je ne sais plus, je ne me souviens plus, la mémoire est courte.
Hein. Attendez, s'il vous plaît, vous pouvez prendre ça au sérieux. Vous savez que vous l'avez fait souffrir, cette comédienne?
Je sais. Non, je suis désolé, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Julie, tu sais, moi, je suis d'une génération qui se prend pas la tête, hein. Il y a encore 5 ans, on pouvait faire ça, voilà, bon, ben voilà, ça passait crème, ben voilà, ça passe plus crème. Qu'est-ce que je te dise, les Arabes, à l'époque, ils disaient rien,
oh là
ben maintenant,
là,
dès que tu dis salut couscous, tu l'as garé où ton tapis volant, bon, ben voilà,
Tout de suite, t'es taxé de raciste. Voilà,
c'est dingue.
Ouais, et puis en plus, ils répondent maintenant.
Bah hein, oui, tiens, c'est bizarre. Hein, allez.
Plus, ils répondent.
Merci Pierre Ménès.
Ah, c'est plus la même époque. Hein.
Ah ouais, c'est ça. Dans les Hauts-de-France, un centre de vaccination.
Salut ma couille. Hein.
Faites-le sortir.
C'était là, pour vous, Julie.
La mère, c'est une grondaise, donc ça ne la colle pas. Ouais.
Dans les Hauts-de-France, un centre de vaccination a dû fermer.
Salut
car
ma chatte, ça va.
Oui, allez, bon, c'est bon. Oh là là, mais dehors, Pierre Ménès. Allez, retour dans les Hauts-de-France, où un centre de vaccination a dû fermer, car certaines doses d'AstraZeneca n'ont pas trouvé preneur. Philippe Douste-Blazy, vous êtes médecin, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, ma chère Julie, je vais essayer de relever le niveau.
S'il vous
bonjour,
plaît,
M.
Oui.
Béliard. Bonjour, M. Cabrol, M. Mathien Lange. M. Mehmet. Bon, je ne vais pas faire toute la rédaction non plus. Bon,
non,
bonjour à tout le bloc et bonjour à mon confrère, bien sûr, Jimmy Mohamed.
Ah, oui.
Effectivement, l'AstraZeneca est mal aimé. Il est le mal aimé. Mal aimé, il est le mal aimé. Les gens le connaissent, mais personne ne veut se piquer.
Vous auriez pu le chanter quand même. Bon,
ouais, alors ça, cette époque, j'y connais, hein, c'était il y a 5 ans.
Oui, non, c'est pas
on
vrai.
Pourrait dire des grosses conneries, bon, maintenant on peut plus.
Bon, on revient à vous, Philippe Douste-Blazy. Comme on a rapporté 12 cas de thrombose, les gens se méfient, ils ont peur pour leur santé, pour leur vie même.
Oui, c'est extravagant. On parle quand même de gens qui vivent dans le Nord. Depuis quand ces gens-là se préoccupent de leur santé?
Oh là là, non, comment c'est pas.
Mais non, écoutez, ils boivent de la suze au petit déjeuner, 2 litres de vin rouge par jour, ils te dégomment un paquet de gitane avant 18h et ils n'ont jamais vu un dentiste.
Oh.
Mais le jour où on doit les vacciner pour freiner une épidémie qui nous pourrit la vie à tous, ils font gaffe à ce qu'ils s'envoient dans le corps. Mais vous êtes relou les ch'tis. Pardon, excusez-moi, mais je suis énervé.
Bah oui, je
s'entends.
Mais vous comprenez cette méfiance
quand même.
Ah ben, ça s'entend. Pierre Ménès, ça va.
Oh ben attends, je peux commenter 2 secondes, c'est mon job, donc je commente les matchs de foot, je peux commenter l'autre rigolo qui commente. Oui.
Bon, Philippe Douste-Blazy, vous comprenez la méfiance des gens quand même, hein?
Ben réponds, Philippe.
Bah, il est
oui,
largué maintenant.
Non, je suis un peu interloqué, j'ai un spectre qui est restauré. Oui, écoutez, soyez... vous comprenez cette méfiance. Soyez pragmatique.
Oui,
on a beaucoup plus de chances de choper un Covid mortel qu'une thrombose. Hein, c'est comme si vous refusiez de mettre votre ceinture de sécurité parce que vous avez peur de vous étrangler avec. Hein,
ouais. Je comprends rien. Qu'est-ce que tu racontes?
Mais hein, si, l'image est pas mal.
Ouais,
là,
ouais. T'as pas un autre exemple? Oui, bon, pour vous, monsieur Ménès, c'est comme si vous attrapiez le sida parce que vous aviez peur qu'un préservatif trop serré vous fasse tomber la zigounette. Ouais, tu vois, je comprends. Là, je comprends ce que tu m'expliques. Hein, dès qu'on parle de couilles, de bites, là, je comprends. Ouais.
Oui, bon. Allez, voilà. On fait aussi la prévention, vous voyez, sur Europe.
Oui, bah écoutez, merci docteur. On va revenir là, je crois, parce que Pierre Ménès, l'intrus, là,
mais
ça nous plaît
d'ailleurs
pas.
Pourquoi Pierre Ménès tout au long de cette revue de presse? Parce qu'il s'est passé quelque chose hier matin sur Europe.
Bah oui.
Je dis bonjour à Philippe Vandel. Bonjour Philippe.
Bonjour Max.
Je voudrais que nos auditeurs le réentendent tout simplement. Vous receviez Alice Belaïdi, comédienne de la série Hippocrate, qui a fait de nouvelles révélations au sujet de Pierre Ménès, qu'elle a bien connu à Canal+. Elle l'accuse, là encore, de sexisme, mais aussi de racisme. Écoutez.
Ce qui sort sur Pierre Ménès, sur moi aussi, j'ai été victime de sale bougnoule, salope, de la part de ce mec-là. Donc je me dis heureusement que voilà, la parole est enfin libérée pour nous les femmes et que ces mecs-là tombent, quoi, parce que ça suffit, quoi.
Pierre Ménès, quand il vous a dit ça, que vous lui avez-vous répondu?
Mais je lui ai répondu, j'ai une vanne de tac au tac, c'est-à-dire que voilà, il me traite de bougnoule, il me dit que je traîne qu'avec des bougnoules, donc je me suis mise à son niveau en lui demandant, mais tu traînes qu'avec des gens gros, toi, par exemple, parce que moi je suis arabe, mais je traîne pas qu'avec des arabes. Donc voilà, j'ai joué la grossophobie basique, comme je l'ai attaqué à son niveau, quoi. Et il l'a très mal pris, en fait, que j'ai de la répartie et que je lui réponde. Il m'a aussi traité de salope. Mais c'est grave, hein, c'est grave, et c'est important d'en parler. Et je trouve ça très courageux que toutes ces filles du métier prennent enfin le micro et la parole pour parler de tout ça, parce que c'était indispensable.
C'était hier sur Europe 1 avec Philippe Vandel et toute son équipe. Je le dis en souriant, l'émission de référence de la culture et des médias. Alice Belaïdi, hier chez vous. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, on va faire lien avec ce qui vient d'être dit, mais c'était un hasard, c'était un anniversaire. C'était les 50 ans hier du fameux manifeste des 343 femmes qui a été rebaptisé les 343 salopes. C'est la une de l'Obs. On sera avec la directrice de la rédaction du journal et on va parler de la cause des femmes, évidemment. Au sommaire également, l'humoriste et comédien Ahmed Silla, qui n'était jamais sorti de son canapé du périphérique, comme il disait lui-même. Il est parti dans nos terres inconnues en plein cœur des montagnes pyrénéennes. Le gars, il était perdu. Il va nous raconter tout ça. Et puis, vous l'avez sûrement découvert dans la série Validé. C'est le rappeur et acteur Actic qui sort son premier album, un double double album, il s'appelle Vague à l'âme, premier album studio.
C'est Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1 avec Philippe Vandel et toute son équipe. Je vous souhaite une très très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.